C'est rare quand même que je dois le remonter, hein. Je ne suis pas des plus grands non plus. Hein. Alors c'est vrai hein, qu'il est normal. On doit, c'est même pas le bon verbe. Il est normal d'honorer les mamans pour tout ce qu'elles font, parce qu'elles ont une sacrée tâche à s'occuper en partie des enfants, mais ce n'est qu'une petite partie de leur mission. Et c'est bien, c'est convenable, normal de les honorer. Alors soyez honorées aujourd'hui, toutes les mamans de l'Église. Cela dit, on ne va pas parler de la fête des mères ce matin, parce que ben, ce n'est pas dans la Bible, comme ça a été dit. Et je pars toujours sur ce que j'ai reçu dans mon cœur de la part du Seigneur. Et ce n'est pas obligé d'être lié aux événements du calendrier qu'on traverse. Hein. Donc, on va parler ce matin de tout ce qu'on ne voit pas. Non, on va parler des choses visibles et des choses invisibles. Vous savez, il y a le monde visible qu'on voit. Moi, là, je vous vois, vous me voyez. On appartient au monde visible. Mais derrière tout ça, et au-delà de tout ce qu'on voit, il y a un monde invisible. Et dans le monde, il y en a qui ne croient pas, hein. Il y en a qui disent, moi, je crois ce que je vois, je ne crois que ce que je vois. Entre nous, ils n'ont jamais vu leur cerveau. Pourtant, ils croient qu'il existe. Mais oui, la Bible nous révèle clairement que ce qui existe ne se limite pas du tout à ce qu'on voit. Il y a tout un monde invisible. Alors, ce matin, je n'ai pas du tout la prétention de faire une énumération complète, une liste exhaustive du monde invisible, des différents éléments du monde invisible. Parce qu'on ne sait pas tout du tout. Notre connaissance, elle est très limitée. Mais on va au moins en parcourir quelques aspects. Libre à vous d'aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas en une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on peut tout parcourir. Mais c'est une réalité. Il y a ce qu'on voit et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et on n'est pas les seuls à penser cela, hein. On connaît tous une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et c'est vrai. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et pourtant, nous, l'être humain, on a beaucoup trop tendance à ne nous occuper, à ne penser, à ne nous préoccuper que pour ce qu'on voit. Et pas du tout assez pour ce qu'on ne voit pas. Alors ce matin, on va prendre le temps de regarder l'invisible. Alors il y a un paradoxe hein, dans ce que j'avance. Est-ce qu'on peut regarder l'invisible? On a des yeux à l'intérieur de nous qui nous permettent de voir l'invisible. Et ces yeux, ils sont à l'intérieur et c'est une faculté que Dieu nous a donnée. Et dans sa parole, le Seigneur nous a laissé beaucoup d'indices, beaucoup d'éléments. Et je dirais même encore, je suis désolé de me répéter, mais dans la nature, il y a beaucoup de choses qui nous révèlent le fonctionnement de l'invisible. Mais ça, vous commencez à avoir l'habitude, hein. J'ai cette réputation-là, mais elle n'est pas mauvaise après tout, cette réputation. Alors, on va commencer. Ah, c'est bon. À regarder dans Hébreux 8, Hébreux chapitre 8, verset 5. Les souverains sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Déjà, c'est un premier point. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, il y avait toute une liste, tout un rituel, hein, on ne va pas s'attarder dessus, mais ils devaient célébrer un culte d'une certaine manière, il y avait des tas de rites à observer, et ces rites, la Bible nous dit, dans Hébreux, alors on ne sait pas trop qui a écrit l'épître aux Hébreux, il y en a qui pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres que c'est quelqu'un d'autre, mais peu importe. Mais en tout cas, dans l'épître aux Hébreux, c'est écrit que les souverains sacrificateurs, ils célébraient un culte qui était image et ombre des choses célestes. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, tout ce qui se faisait pour honorer Dieu, pour le célébrer, tous les éléments qui existaient dans le temple, dans tous les rites, c'était une image des choses spirituelles. Pour beaucoup de choses, c'était déjà une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Mais ça n'existait pas à l'époque. Ça existait au ciel comme étant quelque chose qui devait s'accomplir, et les souverains sacrificateurs devaient, conformément à tout ce que Moïse avait écrit, qui lui avait été révélé par Dieu, ils devaient respecter tout ce qu'il fallait faire, et en fait tout ce qu'ils devaient faire, c'était une image de ce qui se passait dans le monde céleste. C'est fou, hein? C'était image et ombre des choses célestes, et Dieu avait même donné une recommandation bien claire à Moïse. Aie soin, Dieu a dit à Moïse, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu tenait vraiment à ce que tout soit fait exactement selon ce qui se passait dans le monde céleste. C'est une réalité. Déjà dans l'Ancien Testament, ça existait. Pourtant, nous, on ne l'a pas vu. Les souverains sacrificateurs ne le voyaient pas. Moïse l'a vu sur la montagne. Alors, c'était sûrement pendant le séjour qu'il a passé tout en haut du mont Sinaï, en présence de Dieu. Là où Dieu lui a donné les tables de l'Alliance, écrites de son doigt. Vous imaginez quand même, recevoir de la part de Dieu les tables de la loi qui ont été écrites de son doigt. Mettez-vous à la place de Moïse, essayons de nous projeter. Il a reçu ces tables et elles ont été écrites par le doigt de Dieu. Vous imaginez quand on prend ça dans les mains, ça vient du monde invisible. Ça a été gravé par Dieu lui-même. Et Moïse les a prises dans ses mains avec un respect énorme. Il a dû recevoir ça solennellement, mais c'était écrit par le doigt de Dieu. Ça venait du monde invisible et ça prescrivait tout ce qu'il fallait observer. Et Moïse, Dieu lui a dit, tu vas faire tout exactement comme le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc Moïse avait tout ça en tête et il lui a fallu tout retranscrire, toutes les ordonnances que Dieu lui avait révélées. Vous imaginez la responsabilité qu'il a eue, hein, de devoir tout faire exactement comme dans le monde céleste dans le monde invisible, parce que personne d'autre que lui n'avait vu ce monde-là, personne ne l'avait reçu en révélation comme Moïse l'avait eu. Et c'est déjà énorme de considérer cela, hein. On va avancer beaucoup plus loin dans l'histoire, dans Colossiens 1:15. Le verset 15, c'est un tout petit verset qui m'impressionne énormément quand j'essaye de le réaliser. Il est l'image, alors le « il » est question de Jésus, hein, vous l'avez deviné. Il est l'image du Dieu invisible. On dit aussi qu'il est le Fils de Dieu, mais cette formulation, elle me semble encore meilleure. Il est l'image du Dieu invisible. Quand on essaye de réaliser Jésus, c'est le visage visible, une image, une représentation de Dieu qui est dans le monde visible. Mais ce Dieu qui est représenté dans le monde visible par Jésus-Christ, il est invisible. Dieu est invisible. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Il n'a pas de corps physique comme nous, même si on a été créé à son image. Mais Jésus nous révèle comment est Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Nos mots ne suffisent pas à essayer d'expliquer toute la valeur de la personne de Jésus-Christ. Moi, quand j'essaye de réaliser ça, je me dis, mais ah oui, bah c'est Dieu qui est venu sur terre. C'est Dieu qui est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Et il est la révélation visible du Dieu invisible. Et quand on réalise, c'est cette image visible de Dieu qui a été clouée à la croix. Vous savez, cette semaine, j'ai fabriqué une pergola, on a une vigne dans le jardin, une pergola pour permettre à la vigne de bien grimper et de faciliter la cueillette des grappes. Et j'ai cloué. J'ai mis des clous et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que chaque fois que je plante des clous, ça me fait mal au ventre parce que je pense aux clous qui ont été mis dans les mains de Jésus-Christ, de mon Sauveur. Il a subi ça pour moi. Il a subi ça pour chacun de nous. Et quand je lis ce verset, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. C'est Dieu qui est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ et qui a été cloué à ma place. C'est quand même énorme. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. C'est fou, hein, comment c'est Dieu qui est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il est en même temps le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Belle information. Il y a des choses visibles qui ont été créées en Jésus-Christ et il y a des choses invisibles aussi qui ont été créées en Jésus-Christ. Nous, on voit les choses visibles. Nos yeux humains ne peuvent pas voir les choses invisibles. Ça ne nous a pas été donné. Nos yeux humains ne peuvent pas détecter les choses invisibles. Ce sont d'autres yeux à l'intérieur de nos fibres qui peuvent voir et considérer les choses invisibles. Je continue. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités ont été créées invisibles en Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour ce Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Le verset suivant, je le garde pour la fin. C'est énorme d'essayer de réaliser l'existence de ce Jésus qui était l'image du Dieu invisible. Et Dieu se révèle à notre cœur, il se révèle à nous, à notre intelligence, à l'aide du monde visible. Il nous parle à l'aide du monde visible. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup observer la nature. Parce que tous ceux qui ont un jardin ou qui aiment observer la nature sont d'accord avec moi qu'on apprend beaucoup en observant le monde visible, parce que le monde invisible a un fonctionnement qui lui ressemble. Dieu a créé le monde visible pour nous révéler l'existence du monde invisible et pour qu'on réalise comment fonctionne le monde invisible, parce que son fonctionnement, il est parallèle et il est ressemblant au monde visible. Et est-ce qu'on y pense à ça? Est-ce qu'on considère suffisamment souvent la grandeur de notre Dieu en regardant le fonctionnement des choses visibles? Il est super enrichissant d'observer le monde visible. On peut penser par exemple à la parabole du semeur. On la connaît, hein. J'ai pas choisi d'aller rechercher tous les versets parce qu'on y passerait trop de temps. Mais Jésus, quand il a expliqué la parabole du semeur, il a parlé des choses invisibles. On est d'accord? On voit rien de la semence, de la parole de Dieu, de comment ça arrive dans le cœur. Les cœurs oublieux, les mauvais terrains, les bons terrains. Est-ce qu'on le voit ça? C'est dans les fibres de chaque être humain qui va entendre l'évangile. On ne le voit pas. C'est le monde invisible. Et Jésus, au travers de cette parabole, nous a montré que le monde invisible, ce qui se passe à l'intérieur des cœurs, fonctionne de la même manière que ce qu'il y a dans nos jardins et dans la nature. On est d'accord? Ça fonctionne pareil. Le monde visible, c'est une image, une représentation de ce qui est invisible. Les exemples sont innombrables. Si on regarde dans notre jardin, par exemple, si on ne s'en occupe pas de notre jardin, qu'est-ce qui arrive? Je vois Alain qui lève les yeux au ciel. Ben ouais. Est-ce que les salades poussent, les tomates poussent spontanément dans le jardin? Est-ce que le jardin se désherbe tout seul? Et là, je regarde Myriam. Ça l'occupe énormément en ce moment. On en partageait là-dessus hier au groupe de jeunes. Ben ouais, puis on le voit dans nos jardins en ce moment. Ben, avec toute l'eau qui tombe et les températures qui ne sont pas des températures hivernales, ben ça pousse. Et ce qui pousse, c'est majoritairement ce qui est rustique, ce qui est dans le jardin, planté bien avant que nous on arrive. C'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes et ce n'est pas forcément ce qu'on va manger. Mais vous savez, si on est négligent dans notre relation avec le Seigneur, si on ne laisse pas le doigt de Dieu s'occuper de notre être intérieur, si on ne le laisse pas agir en nous, il se passe la même chose que dans le jardin négligé. Ça marche pareil. C'est pas ce qui est bon qui va pousser en nous si on ne laisse pas le Seigneur agir en nous. ce sont les ronces, les mauvaises herbes. Pour qu'il y ait des bonnes salades, pour qu'il y ait des bons fruits, ben il faut que le Seigneur s'occupe de nous, mais il le fait. Mais il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on coopère. Moi, quand je vais dans le jardin, si le jardin me disait « tu te tires, Manu », ben oui, eh ben j'irai pas m'en occuper. Et pensez-vous qu'on aurait de quoi manger ? Ça viendrait pas tout seul. Mais on doit accueillir Dieu dans notre cœur et le laisser agir en nous pour que le jardin, notre jardin intérieur, soit soigné, bénéficie de tous les soins de Dieu et toute la croissance qui va en résulter. Mais si on ne le laisse pas faire, ben c'est pas ce qui est bon qui va pousser, hein. Faut pas rêver, hein. Si on n'entretient pas notre relation avec le Seigneur, si on ne lit pas sa parole régulièrement, très régulièrement, quotidiennement, comment voulez-vous que les bonnes graines poussent ? Ça va pas venir tout seul. Il faut qu'il y ait un entretien. Et le meilleur des jardiniers, le jardinier par excellence, c'est notre Sauveur. Il sait comment on fonctionne, il sait ce dont on a besoin. Mais il faut qu'on le laisse agir et il faut qu'on coopère avec lui, comme quelque part notre jardin coopère avec nous. Voyez le fonctionnement du monde invisible ? Il ressemble, il est à l'image du monde invisible. Il nous faut observer le monde visible. Parce qu'on apprend beaucoup du monde invisible et il faut regarder le monde visible avec les yeux du Saint-Esprit. Demander au Seigneur de nous enseigner comment faire. Et si on se laisse enseigner par Dieu, alors on apprend et on progresse. On pourrait parler du voile du temple. On s'en va du domaine de la nature, mais il y a une magnifique image ce jour-là, quand Jésus a été crucifié à la croix. Que s'est-il passé ? Dans le monde visible, il s'est passé quelque chose. Le voile s'est déchiré, pourtant il était solide. Hein ? Le voile s'est déchiré. C'était un événement super important du monde visible. Et il était à l'image de ce qui se passait dans le monde invisible. L'accès au lieu saint était désormais possible. Voyez la relation entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est merveilleux qu'aujourd'hui, on a accès au lieu saint et au lieu très saint. Grâce à Jésus-Christ. C'est au moment où il a expiré, tout était accompli, que le voile s'est déchiré et désormais on peut s'approcher de Dieu. Et c'est super. C'est un privilège qu'on a de pouvoir nous approcher de Dieu. On pourrait aussi considérer l'époux et l'épouse. La relation, et j'ai déjà prêché là-dessus, je ne vais pas y revenir, mais c'est énorme, la ressemblance entre la relation entre un homme et son épouse, ou l'inverse, on est l'épouse et l'époux, et entre Christ et son Église. C'est pas pour rien que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et dans cette relation sexuelle, ça va très loin. Il y a énormément de choses parallèles qui fonctionnent de la même manière que la relation entre Christ et son Église. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi combat autant la notion d'homme, de femme, de relation. Pourquoi les relations sexuelles sont autant banalisées aujourd'hui ? dans le monde où le prince de ce monde fait une œuvre mauvaise qui va complètement à l'encontre de ce que Dieu a instauré, a institué, a créé. Il veut démolir complètement cette magnifique image de la relation entre Christ et son Église. Et le malin, il veut anéantir cette image que Dieu nous a laissée sur terre. Et dans notre société, tous les outils ont été mis pour anéantir cette image. La notion d'égalité mal à propos entre les hommes et les femmes. Bien sûr qu'on est tous égaux devant Dieu, mais on n'est pas interchangeables. On ne peut même pas mettre un homme à la place d'une femme et inversement. On est complémentaires. Et aujourd'hui, cette complémentarité est complètement niée par la théorie du genre. Et elle est destinée à anéantir l'image de la magnifique relation entre Christ et son Église. Le malin s'acharne à détruire l'image visible du monde invisible pour essayer de faire disparaître, mais il ne peut pas faire disparaître ce qui est dans le monde invisible. Mais il s'acharne tout ce qu'il peut au travers de tous ses disciples, de tous ses serviteurs, et il y en a dans notre monde, pour détruire l'image visible du monde invisible. Mais nous, nous sommes au courant de l'existence du monde invisible. Et dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul nous exhorte, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Écoutez bien la suite. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, j'aurais presque envie de dire, c'est pas bien de corriger, mais parce qu'on est mauvais. Nous devrions regarder, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Excusez-moi d'avoir corrigé, nous devrions regarder. Est-ce que nous regardons aux choses invisibles ? On a, pardon, une fâcheuse tendance à nous borner, à ne regarder que ce qui est visible. Quand on a des bobos, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe de nos bobos. C'est normal hein, de se soigner, on ne va pas laisser des plaies s'infecter, mais il faut s'entendre quand même. Quelle importance on donne ? Est-ce qu'on ne donne pas parfois beaucoup trop d'importance ? Et l'apôtre Paul, il le dit, hein, il n'est pas ironique, nos légères afflictions. Il les compare au poids éternel de gloire. Et si on a des bobos qu'on voit comme ça, vous savez, c'est comme le peuple d'Israël, j'en ai parlé la dernière fois. Hein. Ils se voyaient comme des sauterelles devant les géants. C'est souvent pris en exemple. Mais là, l'apôtre Paul, il fait un peu la même analogie. Hein. Nos bobos, on les voit comme ça, et pourtant, on devrait les voir comme ça, légers. Parce que nos afflictions, si seulement on pouvait mesurer le poids éternel de gloire qu'on a dans le monde invisible. Eh bien, nos bobos qu'on voit comme ça, on les verrait comme ça. Ce sont nos légères afflictions du moment présent qui sont dans le monde visible. Elles ne sont pas grand-chose à côté du poids éternel de gloire qu'on devrait regarder, parce qu'on devrait regarder avec nos autres yeux à l'intérieur ce qui est dans le monde invisible. Et ce qui est dans le monde invisible est tellement plus grand, plus réjouissant, plus glorieux. Et ce qui est visible aujourd'hui, qui occupe toute notre attention, c'est passager. Ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on ne considère pas du tout parce qu'on a sorti le microscope sur nos bobos, eh bien on ne le voit pas. Et c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus glorieux dans le monde invisible. Vous êtes d'accord? Ah ben oui, on est d'accord ce matin. Et puis demain, quand on va avoir un bobo, et moi le premier, hein, vous savez, je me le dis à moi aussi, hein, je ne suis pas en train de vous faire la morale sans me la faire à moi-même, mais on a cette tendance, cette mauvaise tendance à sortir le microscope pour grossir nos bobos, nos légères afflictions du temps présent. Et si on regarde, j'ai bien, moi le premier, on n'aime pas voir notre corps qui vieillit. Qui est content de se voir vieillir? Il n'y en a pas un qui va lever le doigt. On n'aime pas si notre corps pouvait ne pas vieillir, mais que voulez-vous? Le péché est entré dans le monde et la mort physique, c'est une conséquence du péché. On va forcément passer par la mort. Et la mort, elle est précédée par une dégénérescence progressive de notre corps. Il vieillit et on ne peut pas reprocher au Seigneur qu'on vieillisse. On ne peut pas reprocher au Seigneur la perte lente, progressive de capacité physique, de capacité mental aussi, on perd des neurones. Ben ouais, on perd des neurones, des milliers de neurones, tous les jours, à partir d'un certain âge. Je ne m'adresse pas forcément à tout le monde. Mais comme les plus jeunes sont partis, on perd des neurones tous les jours, des milliers de neurones. Et peut-être que c'est des millions. Je ne sais pas, je ne suis pas un neuro... Ah, mais on en perd beaucoup. Mais c'est normal. Alors on s'entretient, on se doit de s'entretenir pour limiter la casse. Et là aussi, hein, si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne s'entretient pas, ben il ne faut pas se plaindre. On va vieillir plus vite. Vous savez, il y a plusieurs manières de vieillir. Hein. Il y a plusieurs manières de vieillir. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, et il ne faut pas attendre 70 ans hein, pour s'y mettre, hein, c'est bien avant qu'on prépare notre façon de vieillir. Mais Dieu n'est pas responsable des mauvais choix qu'on fait dans notre manière de vieillir. C'est vrai, hein? On est d'accord ou pas? On a notre responsabilité. Et il faut qu'on prenne les dispositions pour vieillir de la meilleure manière qu'il faut. Et là, il y a le principe des vases communicants qui est exprimé. Vous le voyez dans... Il est toujours là, hein? Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Et c'est ça les vases communicants. Hein. Quand il y en a un qui descend, l'autre qui monte. Est-ce que nous vieillissons de cette manière? Ou alors, est-ce que notre homme extérieur, notre corps vieillit et notre être intérieur vieillit en même temps parce qu'il s'aigrit. Bah, j'ai pas envie de vieillir. Mais c'est vrai, normalement, ce que perd l'un, l'autre doit le gagner. Et c'est pas forcément évident. Hein. Mais là, on a un principe. C'est que plus le corps vieillit, plus le corps spirituel à l'intérieur, le corps invisible, plus lui doit se bonifier. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. Est-ce que je vieillis? Alors, je ne suis pas en train de parler de moi, mais chacun se pose la question. Est-ce que je vieillis de cette manière-là? Est-ce que ce verset, je le mets en pratique? Si je ne le mets pas en pratique, ben Seigneur, secours-moi. Il faut que l'être invisible qui est en moi se bonifie au fur et à mesure que mon être extérieur, j'aime pas dire se détruit, vieillit. À chacun de répondre à cette question. On va continuer. Bon, peut-être que vous avez l'impression que je passe du coq à l'âne. C'est pas structuré comme d'habitude parce qu'en fait, c'est un étalage de beaucoup de parallèles entre le monde visible et le monde invisible. J'ai essayé de structurer tout ça, mais c'est pas possible. On va continuer. Dans Éphésiens 6, 11, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est encore le monde invisible. Alors vous savez, quelquefois, on voudrait vraiment s'attaquer au monde visible. Parce que c'est cet individu, cette personne qui se comporte d'une façon que... Mais derrière cette personne, il y a le monde invisible. Et autant le peuple d'Israël devait faire la guerre physiquement, concrètement, contre les ennemis, autant nous n'avons pas à lutter, à faire la guerre dans le monde visible. C'est ce que dit ce verset. Nous faisons la guerre dans le monde céleste. De la même manière que le peuple d'Israël l'a mené dans le monde visible, nous devons la mener dans le monde invisible. C'est écrit, ce n'est pas contre la chair et le sang, ça veut dire contre le monde visible qu'on doit lutter. Mais on doit lutter contre le monde invisible. Et ce combat-là, il n'est pas mené avec les armes du monde visible. Il n'est pas mené avec ce qu'on voit, contre les personnes qu'on voit. Il est mené contre ce qu'on ne voit pas, contre ce qu'on peut voir avec les yeux du Saint-Esprit. Et pour mener ce combat-là, on a besoin de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas mener un combat dans les lieux célestes avec nos armes terrestres. Ça ne va pas. C'est pas possible. Comment voulez-vous que les deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible, comment voulez-vous que les armes terrestres puissent faire quelque chose dans le monde céleste? C'est pas compatible, ça peut pas, ça marche pas. Il n'y a que les armes célestes qui peuvent combattre un combat céleste. Et il ne faut pas se tromper d'ennemis, et il ne faut pas se tromper d'armes. Parce que si on veut combattre avec nos armes terrestres dans les lieux célestes, on va perdre. C'est certain. Les seules armes efficaces dans le monde invisible, ce sont les armes de Dieu, les armes spirituelles. Et il ne faut pas se tromper ni d'armes ni d'ennemis nos ennemis ne sont pas ici-bas, sur la terre. Ils sont dans les lieux célestes. Les dominations contre lesquelles nous devons lutter, ce sont les dominations célestes animées par le prince de ce monde. Vous êtes d'accord? Souvent, quand on traverse des épreuves, des moments difficiles, ou quand on voit qu'il y a de la lutte, on a le défaut de ne voir que ce qui est ici-bas. Et on va lire une petite histoire dans 2 Rois 6. C'est très court. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'était Élisée, se leva de bon matin et sortit. Donc on ne lit pas le contexte, mais n'hésitez pas à aller le chercher chez vous. Le rab se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit, Élisée répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. On est beaucoup comme le serviteur d'Élisée. Trouvez pas? Si. Si seulement on laissait le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux, on verrait qu'on est entouré d'une armée d'anges qui veille sur nous, qui est là, et des chars de feu. Oui, d'accord? Donc prions le Seigneur de nous ouvrir les yeux et je dirais d'ouvrir les yeux de notre intelligence spirituelle. Il faut que notre intelligence spirituelle progresse. Je voudrais continuer encore un parallèle entre le monde visible et le monde invisible. Vous savez, parfois, les problèmes ont un visage visible et pourtant, ils ont une origine dans le monde invisible. On a un exemple. Alors, je n'en ai pris qu'un seul, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup. À vous de les chercher. Dans Luc 13, c'est la diapo suivante, on va lire quand même ce petit extrait. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. J'ouvre une petite parenthèse, on vient de lire ça. Imaginons, cette femme elle est là au milieu de nous. Bon, on va dire qu'elle a une grosse scoliose. Elle a des problèmes de dos. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Qu'est-ce qui est marqué? Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Jésus n'a pas vu qu'elle avait un problème de dos. Si, il l'a vu, mais lui, il voyait dans l'invisible. Et Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. J'ai coupé, j'ai mis des petits points plus loin, verset 16. C'est Jésus qui rétorque aux pharisiens qui lui ont reproché de faire une délivrance le jour du sabbat. Et il leur dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas que cette chaîne la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» C'est Jésus lui-même qui dit que la maladie de cette femme, elle avait une origine spirituelle. C'était le malin qui la tenait liée depuis 18 ans. Vous savez, si cette femme aujourd'hui était allée voir les meilleurs médecins du monde, les meilleurs médecins qui pouvaient soigner sa colonne vertébrale, il n'y en a aucun qui aurait réussi à la guérir. Parce que son mal n'avait pas une origine physique, il avait une origine dans le monde invisible. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de malades de nos jours qui ne guérissent pas par la médecine parce que l'origine de leur maladie n'a rien à voir avec le monde visible. Et est-ce que, parmi nous, il n'y a pas des problèmes physiques? J'en sais rien. Qui sont dus à une origine spirituelle? Ça, c'est que le Seigneur qui peut le révéler. Mais il faut se mettre devant le Seigneur. Il faut chercher sa face. Il faut lui demander le secours des armes spirituelles. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois des combats qu'on mène d'une mauvaise manière? Parce que on combat avec des médicaments, avec des choses du monde terrestre, alors qu'en fait il faudrait des armes spirituelles. On n'en sait rien. Il faut demander la lumière de Dieu sur les situations pour qu'on puisse trouver la solution. Alors, je suis en train de chercher une diapo que j'ai pas mise. Matthieu 10, 28, mais elle n'y est pas. Bon, on va aller la chercher dans notre Bible. Désolé. Matthieu 10, 28. C'est dur de lire ça. Ne craignez pas ceux qui... C'est Jésus qui a dit ça. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est dur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Moi, quand je lis ça, ça me fait réfléchir. Ça a un sens énorme. Et ça me fait penser à tous les martyrs qui sont déjà morts pour leur foi. Vous savez, on a acheté un livre qui est dur à lire. On lit tous les jours, c'est 365, à chaque jour suffit sa grâce. On l'a acheté suite à une conférence qui avait eu lieu à Tourcoing. Il est dur ce livre. Il y a des histoires, ça va, mais il y a beaucoup d'histoires où ça relate le martyre de beaucoup de chrétiens qui sont morts pour leur foi. Et ce verset-là, forcément, il me fait penser à eux. Ne craignez pas ceux qui tue le corps. Vous savez, tous ces martyrs, ils n'ont pas craint ceux qui allaient tuer leur corps. Et il y en a qui sont morts dans des souffrances qui ont dû être énormes. Et ils n'ont pas craint la perte de leur corps. Et ce verset, il est à rapprocher de celui qu'on a lu tout à l'heure. Nos légères afflictions des temps présents par rapport au poids éternel de gloire. Vous savez, ces martyrs, au ciel un poids éternel de gloire. Ils vont être consolés par Dieu. Et moi, j'admire comment ils sont allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas craint de perdre leur corps visible dans le monde visible. Leurs yeux, ils étaient au-delà dans le monde invisible. Vous imaginez la force de leur regard dans le monde invisible pour subir la torture, le bûcher jusqu'au bout. La force du regard vers l'invisible pour être capable de supporter quelque chose d'inhumain. Ils regardaient dans le monde invisible, sans craindre jusqu'à la perte de leur propre corps. C'est waouh, hein ? Leur regard s'est porté vers le monde invisible. On va lire 1 Corinthiens 15, 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Ce qui est terrestre, c'est ce qui est en premier. On est né avec un corps physique. Celui que vous pouvez toucher, celui que je vois. Mais on est né de nouveau à un moment dans notre vie. Cette nouvelle créature que nous sommes devenus au moment de notre conversion, c'est ce corps spirituel qui vit dans notre corps physique, visible. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le corps physique, il est à l'image de la terre. C'est un vase de terre. Le corps spirituel, il est à l'image du céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, waouh, réjouissons-nous, nous porterons aussi l'image du céleste. On a porté le corps terrestre que nous avons aujourd'hui, avec lequel on entend, avec lequel on voit, avec lequel on sent, avec lequel on mange, avec lequel on travaille, avec lequel on souffre. Et de la même manière qu'on a porté ce corps terrestre, nous porterons aussi le corps céleste. C'est merveilleux de penser ça. Nous pouvons avec certitude croire en la parole de Dieu. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous nous reverrons avec un corps céleste. C'est sûr. Nous porterons cette image du céleste. Et c'est merveilleux de penser ça. Et vous savez, tous ces martyrs, pour supporter une mort aussi atroce, ils ont dû se le dire. Mon corps, je le perds, mais je vais revêtir mon corps céleste. Et ils sont allés jusqu'au bout. Alors, on vient de considérer, on va passer dans 1 Colossiens 1, 20. Tu vas peut-être sauter, ouais, tu sautes cette diapo, parce que faut qu'on termine. Colossiens 1, 20. On vient de considérer ce matin le monde visible, d'une part, et le monde invisible, d'autre part. On va terminer en réalisant ce verset 20. Dieu a voulu, par Jésus-Christ, lui c'est Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour réconcilier le monde visible au monde invisible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans notre corps terrestre, on peut vivre le monde invisible. Parce que Jésus-Christ est venu réconcilier les deux mondes, celui qui est visible et celui qui est invisible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà dans notre corps terrestre, il est possible de vivre et d'expérimenter la joie du Saint-Esprit dans notre corps terrestre. C'est parce que Jésus-Christ est venu réconcilier les deux mondes. Et ça, c'est un miracle. Et c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il a envoyé son image visible pour nous réconcilier avec lui-même, en ce Jésus-Christ. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est merveilleux. Mais c'est une œuvre qui est tellement admirable, tellement grande. Jésus est venu réconcilier les deux mondes. Vous vous rendez compte de sa mission, de la difficulté, de l'ambition énorme de cette mission et de l'importance de cette mission. Il est venu réconcilier le monde visible au monde invisible. Il mérite notre adoration. Il mérite toute notre admiration. Alors on va terminer en le remerciant, en le louant, parce qu'il est grand. Il est admirable. Je crois qu'on est tous d'accord. Il est admirable, notre Dieu. Et ben, il faut qu'on le loue. On ne peut pas rester la bouche fermée devant une merveille aussi élevée, aussi grande. Alors on va terminer en le remerciant pour sa grandeur. Merci Seigneur pour ton œuvre de réconciliation. Merci pour cette fenêtre qui s'est ouverte et qui nous a laissé voir un peu du monde invisible. Et Seigneur, c'est tellement grand. Ton œuvre est admirable, elle est si grande. Et Seigneur, je te dis toute mon admiration avec mes mots si faibles et si insuffisants. Tu es grand, Seigneur, et merci pour la gloire que tu possèdes. Tu es digne d'admiration, de gloire, de magnificence. Et je loue ton nom, Seigneur. Amen.